Boomerang avec celle qui chantait doup 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 doup. Suzanne Vega, c'est parti. C'est une ville que vous connaissez, même si vous y êtes jamais allé. Il y en a pas beaucoup, hein, mais celle-ci, elle est tellement saturée d'images, de parfums, de bruits, que vous pourriez jurer que vous y avez mis les pieds. Vous savez comment on l'a surnommée? Vous en connaissez les quartiers? Vous pourriez situer précisément là où on l'a frappée. C'est une ville, à défaut de l'arpenter, qui vous trotte dans la tête avec la voix de Sinatra, du narrateur de la Trappe-Cœur, de Salinger, ou même de Woody Allen. C'est ça. C'est une petite voix qui vous est familière, qui vous attire irrésistiblement comme une sirène. Dans un livre sur l'Amérique qu'on lui a beaucoup reproché, Jean Baudrillard a des pages brillantes sur la ville de New York. Il parle de son électricité, bien sûr, de cette force d'attraction qui vous séduit sans que vous sachiez vraiment pourquoi et sans que vous ne puissiez jamais en sortir. Il en fait une sirène, mais une sirène qui résiste aux sirènes du futur. Il écrit, Jean Baudrillard, « Plus tard, les villes seront extensives et inurbaines, comme Los Angeles. Plus tard encore, elles s'ensevelliront et n'auront même plus de nom. Tout deviendra infrastructure, bercée par la lumière et l'énergie artificielle, New York sera le dernier excès de cette verticalité baroque, de cette excentricité centrifuge, avant le démantèlement horizontal, puis l'implosion souterraine. C'est mon genre de sirène.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui raconte New York comme personne. Au milieu des années 80, elle a imposé son art du récit et sa pop matinée de folk dans le monde entier, avec un album devenu culte, Solitude Standing. Elle sera bientôt en tournée dans toute la France avec son nouveau disque An Evening of New York Songs and Stories et sera à l'Olympia le 22 juin prochain. Bonjour Suzanne Vega.
Bonjour.
Merci d'être là. Avant toute chose, quel personnage est-ce que c'est New York pour vous?
Alors, le principal personnage, je dirais que c'est une femme, une belle femme, glamour, mais aussi, elle peut être très cruelle et pas toujours très sympa.
Oui, vous en parlez dans ce titre qui s'appelle New York as a Woman, un titre de 2007 que vous reprenez sur votre dernier disque, et vous comparez effectivement la ville à une femme fatale qui fait rêver ceux qui s'en approchent, mais qui les fait aussi pleurer. Qu'est-ce que vous voulez dire?
En fait, les gens viennent à New York, ils tombent amoureux de son glamour, de son mystère, de l'énergie aussi, de toute cette excitation. Mais New York, elle n'est pas toujours gentille. Parfois, on va perdre son argent, parfois, il se passe des choses qui ne sont pas très agréables. Et puis, il faut savoir aussi que cette femme, New York, eh ben, parfois, elle souffre, parfois, elle a des blessures. Quand j'ai écrit cette chanson, c'était juste après le 11 septembre. Donc, elle se remettait de ses blessures. Profonde.
Depuis que vous vivez à New York, Suzanne Vega, combien de fois est-il arrivé que New York vous fasse pleurer? Et pourquoi?
Vous savez, j'entends toutes ces histoires là en permanence. Les gens souffrent. J'entends parler, par exemple, d'un cambriolage ou de quelqu'un qui a été poignardé ou une triste histoire d'un enfant dans le journal. Je pleure pas forcément, mais je le ressens.
À quoi ressemblait le New York dans lequel vous avez grandi dans les années 60-70, celui du Spanish Harlem et de l'Upper West Side? Quelles images vous reviennent en mémoire tout de suite?
Alors, le Spanish Harlem dans les années 60, c'était un quartier très pauvre, avec beaucoup de drogue. Mais aussi, je me souviens qu'il y a une vraie solidarité. Moi, j'étais petite à l'époque et je sentais l'amour, le respect, enfin, pour l'essentiel, en tout cas, dans le quartier. Et l'Upper West Side, c'était dans les années 70, là aussi, situation économique difficile, de la drogue, mais on était plus âgés. Donc, c'était un moment plus difficile.
Greenwich Village, où vous avez fait vos débuts en vous produisant dans des cafés comme le Cornelia Street Café au début des années 80.
J'ai des souvenirs très très heureux des années 80 à Greenwich Village. Quand j'ai trouvé ces clubs, les autres chanteurs, auteurs, compositeurs, je me suis dit, mais voilà ma place. Et c'est devenu un deuxième chez moi, vraiment. J'allais boire un verre, on parlait poésie, c'était un moment génial.
Mais précisément musicalement, artistiquement, qu'est-ce qui faisait la richesse du New York de vos 20 ans, Suzanne Vega?
C'était un lieu célèbre. Vous voyez, par exemple, Folk City, ce club, ça avait été lancé par Bob Dylan. Quand il a fait la tournée Rolling Thunder Review, il avait commencé là. Donc, il y avait des gens de tout le pays qui venaient dans ce club pour essayer de faire leur trou. Donc, c'était quand même quelque chose d'important. Puis, il y avait l'influence de la scène punk, du Lower East Side, le club CBGB, par exemple. Plein de choses, donc une vraie dynamique.
Et dans quelle mesure diriez-vous qu'il y a toujours cette dynamique aujourd'hui pour des artistes émergents, pour la créativité, pour l'expérimentation?
Alors c'est un petit peu plus difficile parce que les structures ne sont plus les mêmes. Vous allez à un club par exemple, vous pouvez pas commander une boisson et puis rester toute la soirée, voir les différents passages d'artistes. Il faut quitter la salle avant l'artiste suivant. Parfois l'artiste doit payer pour jouer. Enfin c'est quand même bien triste. En tout cas, Folk City c'était génial parce qu'on pouvait voir les aînés qui jouaient, les plus âgés que vous, les groupes, les gens qui étaient en tournée, qui passaient. On pouvait voir John Baez, on pouvait voir Mose Allison, c'était génial. Et quand on était jeune dans le métier, on pouvait être au bar, boire un verre et voir tout ça, c'était fou.
Et à quel moment ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que ça a changé dans les années 80. Les lieux déjà ont commencé à fermer. Folk City a fermé, le Bottom Line, CBGB's aussi, tous ces clubs ont fermé. Et les nouveaux lieux, ils fonctionnent différemment. Donc je suis certaine qu'il y a des artistes qui arrivent, forcément, il y en a. Mais je pense que maintenant, tout le monde est sur Internet, on va être sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, et on trouve sa niche, et c'est là qu'on va présenter ce qu'on fait.
Oui, ils sont d'autres espaces, en fait. Comment naît le texte d'une chanson pour vous, Suzanne Vega?
De différentes manières, en fait. Parfois, ça va être une image. Parfois, c'est un titre. Parfois, ça va être une expression que j'entends dans ma tête. Parfois, c'est une mélodie.
Mais vous dites souvent que ça naît d'un problème.
Oui, enfin, je veux dire, il y a parfois quelque chose qui me tracasse ou quelque chose que je ressens et je ne sais pas comment l'exprimer, une image que j'ai en tête et qui me taraude. Et puis, voilà, c'est un petit peu comme l'huître, vous savez, il y avait ce grain de sable qui va devenir la perle qu'on a développée pour enlever ce qui gênait, en fait.
C'est fascinant. Si on prend par exemple Tom's Diner, qui était sur votre deuxième album, Solitude Standing, et que vous reprenez sur votre dernier disque, vous vous souvenez de ce problème, de ce qui s'est passé?
Oui, je crois que j'étais justement au Tom's Diner. Et j'étais en train de penser à quelqu'un de très cher qui était à l'étranger et j'attendais qu'il revienne. Donc, et tout à coup, je me suis sentie seule. Et ça a été ça, en fait, un petit problème, tout simple, mais quelque chose qui me touchait. Et voilà, ça a été ça, c'est tout. J'avais ce petit bout, vous savez, à la fin où je dis « Allez, je pense à ta voix ». C'était ça. Je voulais qu'il rentre.
À quoi il ressemblait, ce diner, Suzanne Vega?
C'était vraiment plutôt minable, hein. Pas très propre d'ailleurs. On appelle ça une cuillère graisseuse en anglais. Ça veut dire que c'est vraiment une gargote pas très nette. C'est pas comme aujourd'hui où vous savez on a le café à volonté. À l'époque, c'était autre chose. Hein.
Vous savez ce que j'aime avec vous, c'est justement ça. C'est l'art du détail, c'est ce que vous venez juste de faire en décrivant ce diner. Et c'est le cas aussi dans cette chanson qui observe et qui saisit à la volée une foule de petits détails. Dans quelle mesure écrire, je me suis demandé, c'est justement être attentive aux détails.
Oui, le détail, c'est ce qui rend les choses vivantes. Hein. Tous les détails ne sont pas forcément réels, il y en a que j'invente. Il y en a qui sont réels, mais donc c'est bien d'avoir des détails, parce que c'est ce qui rend vivant, mais en même temps il faut quand même un message, évidemment.
Ce titre, Tom's Diner, c'est aussi une mélodie, une ritournelle qui ne vous lâche pas et qu'on fredonne depuis 35 ans. Suzanne Vega, c'est aussi ça. Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. Et puis ça. Orlando watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. The only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny, and I am changing. Marlena on the wall. Allez, peut-être une dernière, notre préférée à toutes et à tous. My name is Luca. I live on the
second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.
C'est intéressant, Suzanne Vega, parce que ces titres de votre catalogue, que tout le monde connaît, après la rupture avec votre maison de disques en 2008, ils ne vous appartenaient plus en propre. Comment est-ce que c'est possible, ça ?
The songs are mine.
Les chansons m'appartiennent. Je suis l'éditrice. J'en détiens encore la moitié. Alors, je ne suis pas propriétaire des enregistrements, mais j'ai une partie des droits. Donc, ça me suffit. Je n'ai pas forcément les masters, mais je suis l'éditrice musicale et ça me va.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vos anciens titres, vous les revisitez, en fait, et vous les rejouez volontiers. Reprendre un titre. Un titre comme Luca, par exemple, que vous avez écrit il y a 35 ans, quel plaisir est-ce que c'est ?
J'aime le chanter, ce titre. Je le chante à chaque fois avec la même passion qu'au moment où je l'ai écrit. Il a beaucoup de sens pour moi, il a du sens pour les autres, je sais aussi. Donc, je ne m'interdis rien.
À quel souvenir est-ce que vous l'associez, ce titre ?
Je l'associe à l'époque où j'ai écrit ce titre, en 85. Je l'associe aussi à toutes les années 80 où je l'ai beaucoup chanté. Puis ça me rappelle aussi des tas d'histoires, des tas de souvenirs.
Au fond, qu'est-ce qui fait qu'une chanson reste ? C'est une question que je me pose tout le temps, Suzanne Vega.
Ça, c'est vraiment un mystère. Si on savait pourquoi une chanson reste et pourquoi c'est un tube, on en écrirait à longueur d'année. C'est vraiment assez intéressant. Les deux titres que j'ai écrits et qui ont cartonné, je n'y attendais pas à ce qu'ils marchent. Et puis il y en a d'autres que j'ai écrits en me disant « Ah, ça sonne bien, ça devrait marcher » et ça ne prend pas. Donc, c'est un mystère, hein. Espèce de fusion entre le son, le message, la voix, le moment, l'air du temps aussi, et puis la manière dont le public va réagir.
La mélodie aussi.
Oui, la mélodie, oui, mais je pense au hip-hop, au rap, là, la mélodie n'est pas tellement importante, et pourtant, ça marche très fort, les gens adorent ces titres, simplement on a une idée, tout à coup on entend quelque chose, on aime et on ne sait pas pourquoi.
Quand est-ce que vous avez commencé à en composer, vous, des mélodies ?
Alors, la première mélodie qui m'a plu, que j'avais écrite, j'avais 14 ans. Ça faisait 3 ans que j'essayais d'écrire quelque chose, ça ne me plaisait pas. Puis finalement, ça m'a plu, j'avais 14 ans. Et après ça, j'ai continué. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai écrit beaucoup, jusqu'à l'âge de 20 ans.
Et avec quelle mélodie est-ce que vous avez grandi ? Qu'est-ce qu'on écoutait chez les Vega ?
Chez les Vega, on écoutait de tout. On écoutait du jazz, on écoutait la radio. Il y avait la Girl from Ipanema. J'adorais sa voix, c'était magique. Mes parents, ils chantaient des chansons de Pete Seeger, du folk, donc j'avais appris ça. Il y avait mes babysitters aussi, qui étaient de Porto Rico, où elles étaient noires, donc c'était plutôt du Motown. On écoutait beaucoup les Supremes, par exemple. Donc j'ai grandi avec beaucoup de types de musique différentes.
Et puis un jour, vous découvrez Lou Reed.
By Berlin, by the wall, you were 5'10" tall. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe. You could hear the piano play. It was very nice. Oh, babe, it was paradise. You're right, and I'm wrong. Oh, babe, I'm going to miss. Sweet day, oh baby.
Donc je suis allée à un concert et je l'ai vu sur scène. J'étais d'abord très choquée, un peu perturbée. Et puis bon, après l'entracte, alors là, j'ai vraiment découvert, c'était un artiste génial. Et à l'époque, il jouait encore Walk on the Wild Side sur scène. Après, il a arrêté. Hein. Je crois que j'ai vu qu'une seule fois la chanter. Plus jamais après.
Mais quel genre d'adolescente est-ce que vous étiez, vous, d'ailleurs, à l'époque? Est-ce que vous étiez timide, extraverti, tête brûlée?
Timide. Non, j'étais timide. Mais en même temps, j'étais aussi une tête brûlée. J'étais capable d'aller dans un club, essayer de décrocher une date. Très timide, très réservée. Mais en même temps, je prenais ma guitare, j'y allais, je chantais devant des étrangers, devant le patron du club aussi. D'ailleurs, le plus souvent, il ne me donnait pas de date. Mais en tout cas, je me suis accrochée. Et puis finalement, quand j'avais 20 ans, je suis allée à Folk City et là, j'ai été prise.
Il a vu ça en vous, cette détermination, Lou Reed?
I don't know what he saw.
Je ne sais pas ce qu'il a vu. Vous, franchement, peut-être. Je sais que bon, son premier concert, j'avais 19 ans. Après, on s'est rencontrés, j'en avais 26. Et donc après, on a un peu roulé notre bosse hein, pendant des années, l'un et l'autre. Et puis finalement, vers la fin de sa vie, on est devenus très proches.
Parce qu'il faut raconter quand même que Lou Reed, il se trouve que c'est l'un des premiers à vous avoir interviewé lorsque vous avez sorti votre premier disque en 1986. Quelle histoire quand même. Est-ce que c'était un bon intervieweur?
C'est la première fois qu'on se rencontrait, hein. C'était dingue. J'étais hyper nerveuse, personne n'avait dit que c'était lui, Lou, qui allait m'interviewer. Donc j'ai un petit peu perdu les pédales, enfin ça se voit, on la voit sur YouTube encore l'interview, c'était assez drôle.
Et alors quel genre d'intervieweur est-ce qu'il était? Je pose des questions comme ça pour savoir.
D'un côté il était sympa, chaleureux, assez drôle, mais enfin j'étais pas préparée, je savais pas grand chose de Greenpeace pour tout dire. Il m'a un petit peu rencardé sur le sujet, il savait très bien de quoi il s'agissait, il connaissait la politique, la situation. Il m'a un petit peu sauvé la situation, il m'a aidé. Donc à la fois un peu sec, mais à la fois très drôle.
Quand vous l'avez vu la première fois, quelle question est-ce que vous auriez aimé lui poser, Suzanne Vega?
Je pense que j'aurais demandé pourquoi il jouait la guitare acoustique. Moi, j'avais acheté l'album Berlin, qui était acoustique exclusivement, et il fait du rock. Et je me suis dit, c'est un peu bizarre, la guitare acoustique, c'est mon instrument. Mais en même temps, c'est ce qui m'a relié à lui. Je voulais pas vraiment lui poser des questions quand j'avais besoin de savoir quelque chose. Bon, j'avais lu toutes ses biographies et tout ce qui le concernait, en fait. C'était un peu une énigme, en fait, lui-même. Parfois très sympa, très chaleureux, puis parfois il voulait pas parler. Très lunatique, hein. Il y avait intérêt à décrypter son humeur du jour.
Mais au fond, dans quelle mesure diriez-vous que Lou Reed a eu un impact sur votre façon de faire de la musique?
Il a eu un impact important sur ma musique. J'ai vu des possibilités que je n'avais pas vues avant. Avant ça, bon, j'écoutais Paul Simon, Bob Dylan, Leonard Cohen, Lauryn Hill, des gens qui avaient leur style, tous. Et j'étais très contente d'apprendre d'eux. Mais lui, Lou Reed, il a apporté quelque chose de choquant et puis de différent par rapport à avant. Il n'a jamais employé de métaphores, il était très simple, il utilisait des faits. Une structure harmonique très simple.
Et vous partagez cet art du détail.
Oui, il avait une vraie sensibilité littéraire, il savait raconter une histoire.
On va en reparler, évidemment, de récits, de littérature, juste après la magnifique variation que vous proposez, justement, de Walk on the Wild Side, sur votre album An Evening of New York Songs and Stories. Vous êtes sur France Inter, avec Suzanne Vega. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side. The
colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. He said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the street, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey sugar, take a walk on the wild side. All right. James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. The colored girls go do 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 do.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bon, de prime abord, elle est moins wildside que countryside. On l'imagine volontiers au coin du feu, en train de bouquiner sa guitare et son carnet à portée de main, sirotant une tasse de thé au gingembre, des taches d'encre plein les doigts avec sa frange blonde, son regard mélancolique, un peu fougueux, quelque part entre Joan Didion et PJ Harvey. La musicienne Suzanne Vega, invitée de Boomerang ce matin pour nous parler de ce que c'est que de raconter une histoire quand même. Quand est-ce que les mots sont entrés dans votre vie?
Well, it's a funny question.
C'est une question amusante, parce qu'en fait, j'ai parlé très tard, à l'âge de 2 ans et demi. Et tout le monde s'inquiétait en disant, mais elle n'est peut-être pas très intelligente, ou peut-être qu'elle ne parlera jamais. Et là, j'ai commencé à lire à l'âge de 3 ans, de sorte qu'en fait, j'ai commencé par aimer les mots écrits, parce que je lisais les histoires, et j'étais heureuse de pouvoir lire. Donc, 3 ans, oui, donc j'ai appris à lire à ce moment-là. Et c'est le monde des idées qui s'est ouvert à moi. Et qui dit idée dit mot.
Ce que j'aime, moi, chez vous personnellement, c'est justement cette dimension très littéraire, Suzanne Vega. Je pense à la passion que vous avez développée pour l'autrice américaine Carson McCullers, à qui l'on doit des romans tels que Le cœur est un chasseur solitaire, ou encore Reflet dans un œil d'or, et à qui vous avez consacré un album et une pièce de théâtre. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces livres?
Oh, I found this very clear.
Ce que j'ai trouvé, c'est des personnages vraiment marquants qui vivent un petit peu en marge. Certains sont très jeunes. Il y en a qui sont des caractères très difficiles, des gens qui vivent en milieu urbain, assez argotique. Il y a des hommes. D'ailleurs, j'ai été surprise d'apprendre que c'était une femme qui était morte en 1967. Quand j'ai lu ces récits la première fois, je me suis dit, c'est vraiment une femme très moderne, très contemporaine. Et j'aime la langue qu'elle emploie, quelque chose de très spécial qui m'a vraiment parlé.
Vous dites que quand vous étiez à l'université, vous avez commencé à limité. En quoi exactement?
Well, no, it wasn't
non, c'est pas ça. C'est pas une simple imitation. C'est-à-dire que j'avais pris une option théâtre à l'université. Donc il y a un professeur qui nous a dit bon, vous choisissez quelqu'un qui a vécu un certain moment de l'histoire et qui est mort, et vous vous habillez en ce personnage.
Ah, c'est un exercice en fait.
It was an exercise.
Oui, c'était un exercice. Donc il fallait être prêt à répondre à des questions comme si on était à la télévision. Donc il avait fallu préparer. J'avais lu le livre, j'ai fait un costume. Donc je suis arrivée. Et j'ai aimé cette liberté d'être elle, d'être dans son esprit, et ça a donné la pièce ensuite.
C'est intéressant ce que vous racontez sur le fait que vous suiviez des cours d'art dramatique. Devenir comédienne, c'était ça le projet au départ ?
Non, ce n'était pas le projet, mais quand j'étais petite, je me rendais compte que je n'arrivais pas à m'exprimer clairement, en tout cas à exprimer mes émotions, et je voyais que c'était un problème. Donc je me suis dit, si je prends des cours de théâtre, je vais apprendre à m'exprimer. Et si je n'arrive pas à exprimer mes émotions, peut-être que je vais pouvoir exprimer celles des autres. Et je trouve que c'est utile encore aujourd'hui d'avoir cette espèce de passerelle qu'on va créer pour ouvrir les émotions. Le théâtre, c'est ça, en fait. On fait du théâtre pour trouver l'émotion. Donc j'ai trouvé ça très libérateur parfois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre.
C'est vrai que vous avez failli jouer dans Recherche Suzanne désespérément?
Oui, en fait, j'étais venue pour une lecture du script, et les producteurs ont dit, ah non, ça va pas. Ça va pas aller, vous êtes trop sereine.
Mais vous vous appelez Suzanne?
Mais je pense que c'était Madonna qui était faite pour le rôle.
En tout cas, cette formation de comédienne, en quoi est-ce qu'elle a fait de vous la chanteuse, l'interprète que vous êtes encore aujourd'hui?
Je visualise le spectacle, je pense aux costumes, je me dis comment est-ce que je vais faire passer une idée. Et je gagne en confiance aussi au fil du temps, grâce justement à cette volonté d'exprimer l'émotion et de comprendre comment ça fonctionne, comment je peux le faire.
Chanter une chanson, c'est aussi incarner un personnage, c'est aussi devenir quelqu'un d'autre.
Parfois, il y a certaines des chansons, c'est un petit peu des petites pièces de théâtre. Vous voyez Calypso, par exemple, elle parle d'une déesse sur une île. Casper Hauser, ça parle d'un enfant qui a été enfermé pendant des années. Donc il y a effectivement ce personnage qui apparaît, on l'incarne, ce personnage.
Qu'est-ce que vous ressentez, Suzanne Vega, quand vous entrez sur scène?
Ça dépend où on en est dans la tournée, en fait. La première nuit, généralement, je suis nerveuse. Le premier soir, je me dis, ah là, ça va être compliqué. Mais en milieu de tournée, ça va bien. Je me sens détendue, tout se passe bien, je suis contente. Alors, sauf catastrophe, vraiment, ça se passe très bien.
C'est ça, la question que j'allais vous poser, c'est une grande performance, en fait, ça tient à quoi ?
Ça tient à... Ça veut dire que le public est enthousiaste. Ça veut dire qu'on est en lien, je leur raconte des histoires. Ils comprennent ce que j'ai à leur dire, ils trouvent ça drôle et je les fais rire. Ça, c'est important pour moi. Franchement, les chansons sont sérieuses, alors j'aime bien avoir ce petit contraste, moi.
Je suppose que ça tient aussi à votre voix.
Oui, bien sûr. Bien sûr, la voix, il faut qu'elle soit solide, il ne faut pas qu'elle soit trop en retrait, il faut bien chanter toutes les notes, et puis il faut qu'il y ait également du fun, il faut être dedans.
Mais comment vous l'avez vu évoluer, votre voix, précisément, avec toutes ces années ?
Elle me plaît maintenant. Elle est simple, au fil du temps. Elle est devenue plus affirmée. Quand j'étais plus jeune, parfois, elle me lâchait parce que j'essayais de chanter plus fort parfois que les musiciens. Je faisais parfois 2 concerts par jour et au fil du temps, maintenant, je fais les choses simplement.
C'est intéressant. Quelles histoires est-ce qu'elle raconte pour vous, votre voix, Suzanne Vega?
Les joies, les épreuves, les secrets, c'est ça que j'essaie de faire passer quand je chante. Quand j'ai commencé à chanter, j'étais très jeune. J'avais 3 jeunes frères et sœurs, donc dans un premier temps, en fait, je chantais pour eux, pour qu'ils s'endorment, pour les divertir, pour les amuser, pour éviter qu'ils chamaillent, pour leur raconter une histoire.
Et
c'est comme ça que j'ai commencé. C'était un outil, c'est toujours le cas, toujours un instrument.
Vous allez nous raconter une histoire ce matin, une histoire que vous avez choisi de reprendre. Elle s'appelle Dreaming, du groupe Blondie. Et je vous signale au passage que Debbie Harry était, il y a 1 an et demi, elle aussi à ce micro. Vous êtes accompagnée ce matin, et c'est extraordinaire, elle s'est glissée dans le studio, par Jerry Leonard, l'un des guitaristes de David Bowie, Suzanne Vega. Sa carte blanche, c'est quand même la classe. C'est parti.
Okay.
Okay.
I met you in the restaurant. You could tell I was no debutante. You asked me what's my pleasure, a movie or a measure. We'll have a cup of tea and tell you of my dreaming. Dreaming is free. On charity, pleasure's real or is it fantasy? Real, too real is living rarity. People stop and stare at me. We just walk on by. We just keep on dreaming. Feet, feet, walking a 2 mile. Style I never met him, never forget him. Dream, dream, even for a little while. Dream, dream, filling up an idle hour, fade away, radiate. I sit by and watch the river flow. I sit by and watch the traffic go. Imagine something of your very own, something you can have and hold. I'll build a road of gold just to have some dreaming. Dreaming is free. Dreaming. Dreaming is free.
Oh là là, la classe internationale. Suzanne Vega reprend Blondie, Jerry Leonard à la guitare et au cœur. Rien que ça, merci infiniment Suzanne d'être venue faire un tour dans Boomerang. Et merci à votre interprète ce matin, Hélène Joguet, ainsi qu'à Guillaume Roux et Thomas Langlin à la prise de son et à la technique. Je rappelle, Suzanne, que vous jouerez votre dernier disque, An Evening of New York Songs and Stories, à l'Olympia le 22 juin et qu'on attend ça avec impatience.